Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Bonjour à tous les extraterriens, à toutes les extraterriennes. Et merci d'être là pour cet épisode absolument incroyable. Donc, ce n'est pas moi qui dis le top départ. Normalement, je dis c'est parti, on enregistre. Mais là, je suis avec Laurie. Salut Laurie.
Salut Bart.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi cet épisode est un peu particulier ?
Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'actuellement, on est en l'air, là, sous un parapente, juste au-dessus du lac d'Annecy. Et on essaye de trouver des courants ascendants pour prolonger cette balade et avoir le temps de discuter.
Alors, autant vous dire que c'est pour l'instant l'épisode le plus aventurier et le plus épique que j'ai pu enregistrer jusque-là. Alors, vous entendez sûrement un bruit de vent. On va essayer de le retirer au maximum avec Morgane, notre super monteuse son. J'ai vraiment les pieds dans le vide. On est à quelle altitude là ?
On est bien monté, on doit être à 1400, je pense.
Ouais, on est à 1400 et je dirais aller à 200 mètres au-dessus du sol. Et on est une centaine de parapentistes autour de nous. Donc c'est absolument incroyable. Moi, je vis une première, c'est de la folie. Et donc je tenais enfin à te remercier, Laurie, pour cette expérience dingue et pour avoir été aussi barjo que moi pour relever ce petit challenge.
Et bah avec plaisir, tu me remercieras quand même quand on aura les deux pieds au sol. Non, je rigole.
Et effectivement, et c'est une sacrée prouesse technique en termes d'enregistrement parce que effectivement on a fait un premier essai pour faire tester les micros. Il y a 30 à 40 km/h de vent, vous l'entendez, on l'entend. Il fait froid, j'ai les mains croisées, mais en tout cas c'est excellent. Alors on va commencer quand même avec toi Laurie parce que effectivement tu n'es pas la première parapentiste venue non plus. Si tu t'es permis de me proposer l'épisode, c'est que tu as un très gros palmarès dans le parapente. On va y revenir après. Mais tu sais, j'adore cette fameuse question, et tu la connais aussi, que je pose à tous les invités. Et c'est pas parce que tu m'emmènes à 2000 mètres d'altitude et que j'ai un peu le vertige que tu vas y passer. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, je pense que c'est mon... Alors, de sport, il y a toujours la question, est-ce que le parapente est un sport ? Parce que c'est vrai que, comme tu vois, on est un petit peu immobile dessous. Par contre, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je dirais peut-être mon premier vol en biplace avec mon papa. Okay. Où, du coup, le parapente, c'est une passion de famille. Donc, mon père vole et nous emmène en vol avec ma sœur depuis qu'on est petite. Et vraiment, tu vois, c'était juste sur la montagne que tu vois en face depuis le Semnoz. Okay. Et je me souviens de regarder mes pieds, de regarder les vaches en dessous. Et de me dire, mais c'est dingue, quoi, juste de la sensation de vol, là, que du coup, tu vis pour la première fois. Et c'est vraiment que là, je me suis dit, je crois que j'ai envie de pouvoir faire ça tous les jours.
Ok, donc dès le premier vol, piqué par le virus.
Oui, oui, alors après, y a un long apprentissage hein, de là à voler entre le biplace et tout seul. Mais oui, je savais que j'avais envie de faire ça.
Ok, les auditeurs et les auditrices l'ont compris, ton papa est parapentiste, il a fait de la compétition aussi ?
Non, pas du tout, vraiment, c'était une pure passion. Puis après, lui, ça a été un petit peu son business, il s'est mis à revendre des parapentes. Ça parlait beaucoup parapente à la maison. Heureusement, il y a ma sœur qui faisait de la natation quand elle était jeune et qui ensuite a fait plutôt d'autres sports de montagne, mais au moins ça compensait avec ma maman qui n'a jamais voulu voler.
Ok. Ok, et t'as fait un peu, t'as fait quelques autres sports quand même ?
Pas à haut niveau, on va dire. Okay. Mais par contre, oui, quand j'étais petite, j'ai touché à tout. J'ai fait de la danse classique jusqu'à l'adolescence, un peu de tennis, de l'escalade, un petit peu de tout.
Ok, bon bah ouais, une fille des montagnes qui goûte à tout et qui est très curieuse, j'imagine.
Oui, oui, oui. Bah après, on a quand même je suis née par ici, donc on a un terrain de jeu qui te permet de tout faire quoi. L'hiver, tu vas au ski. L'été, tu nages, tu fais des randonnées.
C'est difficile de ne pas tomber amoureux, effectivement, de cette région. De notre point de vue, le coup de cœur est immédiat, puisqu'effectivement, on a vu sur le lac d'Annecy, c'est absolument formidable. J'imagine que c'est le Mont Blanc qu'on voit tout droit, tout au fond.
Ouais, alors là, on le voyait juste avant, tu vois, on va remonter, on va repasser au-dessus du relief, et puis ouais. Tu vas pouvoir de nouveau le voir.
Ouais, 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 mais écoute, je le reconnais, effectivement, de tous mes passages, effectivement, dans le Beaufortin et à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs. Donc voilà, mais je reviens à toi. Comment est-ce qu'elle était la petite Laurie à l'école ? Parce que j'imagine que pour faire un peu de parapente, il faut être un peu casse-cou, un peu aventurière, non ?
Oui, j'aimais pas beaucoup l'école. J'avais plutôt la chance, on va dire, d'avoir des facilités qui me permettaient d'aller à l'école et puis de réussir sans trop m'y investir. Mais en fait, j'ai vraiment du mal avec le format assis toute la journée derrière un bureau. Et donc, ça a été un petit peu dur pour moi. De faire ça. Et puis quand j'ai découvert le parapente, donc j'ai commencé à voler toute seule à l'âge de 14 ans. Là, pour le coup, c'était un petit peu plus compliqué encore de rester dans les salles de cours. Et j'ai pu intégrer en fait le pôle espoir de Font-Romeu, donc le seul pôle espoir en France niveau parapente. Et ça m'a permis de lier les deux.
Ok. Tu volais combien de fois par semaine ou combien de fois dans l'année ? Est-ce que tu comptais déjà le nombre de vols
ouais,
que tu lèves ?
On compte en nombre d'heures de vol. Et puis, on est vraiment dépendant de la météo. Hein. Il y a le temps qu'on va pouvoir y investir. Mais du coup, quand on était au lycée sur Font-Romeu, là, en Pôle Espoir, on avait les mercredis et tous les week-ends. Et parfois, les soirs, les mardis et les jeudis soirs, quand la météo le permettait. Une saison, ça peut aller, ça dépend vraiment. On peut aller 300, 400 heures de vol au maximum. Ça, c'est peut-être les plus grosses saisons que j'ai faites. Et puis après, je me suis aussi rendu compte que moi, j'ai pas besoin forcément d'un gros volume, ou du moins, je peux saturer aussi assez vite avec un gros volume de parapente, parce que j'adore la montagne et tous les autres sports qu'on peut y pratiquer.
Ouais.
Donc.
Il te fallait un peu de tout.
Un peu de tout, ouais.
Ok. Donc à 14 ans, tu pars à Font-Romeu pour faire effectivement, sport études parapente. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est déjà, est-ce que tu penses en faire un métier, une passion ? Alors, on va expliquer, je pense. Un petit peu tout au long de cet épisode et les auditeurs vont le comprendre que c'est pas forcément un sport dont on vit comme ça pleinement, mais ça c'est la première question que j'ai. Et la deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a des rôle modèles, est-ce que t'as des idoles ou des femmes, des hommes que t'as envie de suivre et qui te font te dire tiens la voie elle est possible?
Alors la première question c'est est-ce que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. En fait je connaissais ça parce que du coup comme mon père vendait des parapentes, on se retrouvait assez souvent dans les écoles de parapente et du coup je voyais assez bien la vie de moniteur. Donc pour vivre du parapente, il faut vraiment être moniteur, c'est-à-dire emmener les gens en vol, en biplace, là, comme on est en train de faire actuellement, ou alors faire de l'apprentissage, c'est-à-dire les guider en radio sur différents niveaux. Et pour le coup, c'est quand même un métier où tu te fais pas mal de cheveux blancs, parce que tu as une prise de risque que tu maîtrises pas à 100%. Alors autant en biplace, là, on est purement, mis à part le décollage, que tu as très bien fait. Après, le reste, c'est seulement mes capacités techniques. Voilà, donc là, on a juste failli rencontrer d'un peu trop près un parapente qui regardait pas où il allait, qui tourne dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc je reprends et du coup j'avais pas forcément envie de ça. Et puis surtout j'ai très vite été passionnée par... J'avais des petits soucis d'eau quand j'étais jeune. Et j'ai très vite été passionnée par le fait d'être kiné.
Waouh, les images sont absolument grandioses. D'ailleurs si vous nous écoutez en audio, allez jeter un petit coup d'œil quand vous aurez le temps sur les vidéos parce que ça vaut vraiment le coup. On est en train de faire un truc assez extraordinaire. On essaye de monter encore. Et je vais meubler un peu pendant ce temps-là pour vous faire un peu le décor, la vue et un peu vous dire comment ce que j'ai découvert pendant que j'ai préparé cette interview. Déjà, vous raconter un petit peu l'histoire. Pour la petite histoire, j'ai eu l'idée. Ça fait déjà un moment que j'avais l'idée en me disant tiens, il faudrait faire des podcasts un peu barjo, un peu fou. Et j'avais listé une liste d'endroits assez exceptionnels sur lesquels enregistrer. Donc il y a un voilier, donc on a fait ça au mois d'octobre-novembre. Si vous n'avez pas encore écouté, on a fait une petite série spéciale où on est parti avec des copains à l'aventure. Et était aussi venue l'idée de le faire en parapente. Et il me semble, j'en avais parlé dans un podcast, hein, c'est bien ça Laurie ?
Oui, je crois que tu parlais du fait de faire des podcasts dans des endroits les plus incongrus possibles. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai proposé.
Et ouais, et j'avais donc effectivement émis l'idée du parapente. Je trouvais ça assez fun, plus que fun, enfin complètement dingue. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai eu la chance que tu sois une auditrice. Hein. T'imagines que si t'écoutais pas du tout Extraterrien...
Eh ben non, on serait pas là. Ouais, c'est ce qui est génial. Mais vraiment, j'ai l'habitude depuis pas si longtemps, je pense, depuis le confinement, tu vois.
Ouais.
Mais d'écouter pas mal de podcasts, et notamment à l'effort, là, sur les sorties longues où tu cogites un petit peu trop et ton cerveau s'évade. Ouais. Et j'ai vraiment juste adoré découvrir la vie de plein de sportifs qui sont juste hyper aspirantes et qui t'apprennent tous les jours, quoi. Je trouve que à chaque fois que tu sors des podcasts, t'as des nouvelles idées, t'as des nouvelles envies, tu vois les choses différemment, et c'est juste ce que je trouve génial.
Ouais, c'est clair. Bah écoute, c'est un honneur, et franchement, tu me flattes d'écouter. Ça bouge un peu et on est au-dessus. On est vraiment littéralement au-dessus des crêtes. C'est dingue. Je reprends à toi. Donc ouais, l'école, c'est pas facile. Tu pars à fond remue. Donc l'idée, c'est peut-être d'en devenir monitrice ou en tout cas de faire du biplace, de pouvoir accompagner des gens à en faire. Grosso modo, c'est les métiers du parapente. Il y a d'autres possibilités ou d'autres idées que tu as en tête à ce moment-là ?
Alors, Fond Romeu, en vrai, c'est vraiment un pôle espoir, donc c'est plutôt fait pour découvrir la compétition. En fait, la particularité de Fond Romeu, c'est que tu rentres en pôle espoir sans forcément avoir commencé la compétition.
Ouais.
Parce qu'en parapente, tout ce qui est compétition, normalement, c'est interdit au moins de 18 ans. Il faut une dérogation de la part de la fédération.
Mais tu as le droit de voler plus jeune.
Tu as le droit de voler plus jeune, donc à partir de 12 ans en école et à partir de 14 ans tout seul.
Waouh, c'est dingue.
Fond Romeu, c'était vraiment accès plutôt découverte de la compétition. Donc quand je suis sortie de là-bas, j'ai fait seulement une année qui s'est pas hyper bien passée, juste parce qu'en fait, j'avais du mal avec le format internat et restrictions des libertés. Du coup, quand je suis rentrée, par contre, je savais vraiment que je voulais faire du parapente en compétition et à un certain niveau, pouvoir du coup faire ce qu'on est en train de faire, mais se balader sur plus de montagnes. Et c'est vraiment là que j'ai défini mes motivations. Et ensuite, monitrice, je me suis dit non, peut-être pas, parce que comme je t'expliquais, c'est un métier où tu peux quand même... tu as pas mal de stress, tu peux te faire peur. Et j'ai continué mes études et j'ai fait une licence en STAPS, donc fac de sport, au milieu de laquelle j'ai eu le temps de passer mon diplôme pour être monitrice. Et j'ai ensuite continué sur kiné. Kiné, c'est vraiment le truc que je voulais faire. Et je me suis dit, écoute, ton diplôme de monitrice de parapente, tu l'as. Et tu verras bien ce que t'en fais.
Ok. Il y a d'autres possibilités dans le parapente ?
Alors, la première possibilité, quand même, c'est de voler pour son plaisir. C'est la première. Et puis après, non, tu peux pas vraiment en vivre. Moi, j'ai fait du coup une dizaine d'années en équipe de France. Tu vas pouvoir être défrayé, donc c'est-à-dire ne pas payer tes déplacements sur les compétitions et la vie durant. Mais par contre, en gagner ta vie, non, ça, c'est pas... C'est compliqué. Il y a, je pense, un ou deux pilotes dans le monde qui le font, et c'est plutôt du coup en acrobatie sur une discipline qui est un petit peu plus visible où à un moment Red Bull a mis de l'argent là-dedans.
Ok. Pour expliquer, tu vas me dire si j'ai bien fait mes devoirs. En gros, il existe trois grandes disciplines selon moi dans le parapente. La première, c'est effectivement l'acrobatie, comme tu viens de le dire, où c'est le but, c'est de faire des backflips, des figures dans tous les
ouais,
sens.
C'est à peu près ça. C'est pas tout à fait le même nom, mais ouais.
Voilà, ouais, c'est bon, des loops en tout cas. C'est aussi là où on voit des fois des vidéos absolument effrayantes de gars ou de femmes qui s'en mêlent les suspentes et qui vont tout simplement devoir actionner le parachute de secours et qui vont faire de la chute libre. Donc là, c'est très 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 dangereux. Ça, c'est donc la première discipline. La deuxième discipline que toi tu connais très très bien, c'est celle qu'on appelle la distance. Et alors là, du coup, vous êtes entre 100-130 en fonction des coupes du monde. Vous êtes tous en l'air, vous montez tous en l'air. Vous partez en mass start, donc tous ensemble d'un coup aussi pareil. Et là, vous avez un nombre de checkpoints à aller chercher. Et des fois, c'est des très grosses boucles qui vont faire entre 100 et 150 km. C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Alors du coup, le parcours, il dépend vraiment de la météo. Donc vraiment, si on a une belle aérologie, on va pouvoir faire effectivement jusqu'à 150 km. Et puis après, des plus petites distances, si la météo le permet. Je reviens juste sur l'acrobatie, parce que mes copains acrobates, ils vont quand même me dire... on a vendu ça comme une discipline à risque. C'est juste qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes voiles. C'est des petites voiles qui permettent du coup de faire des figures. Et donc, ils vont dans ce qu'on appelle un box, hein, au-dessus d'un lac, très souvent, qui se termine par un posé sur un radeau. Et là, ils font leur enchaînement de figures et ils sont notés par des juges là-dessus. Et effectivement, tu prends plus de risques parce que les manœuvres sont très dynamiques, ça va très vite. Et c'est plutôt usuel d'utiliser son parachute de secours en accro, à un moment pour passer des caps dans l'apprentissage ou tout simplement quand ça se passe mal. Mais vraiment, le secours est vécu comme quelque chose de normal, on va dire.
Okay.
En soi, ils ont aussi deux parachutes de secours, au cas où il y en a un qui ne fonctionnerait pas. Voilà pour l'acrobatie. Okay. Et la distance, tu peux aussi faire secours, mais du coup, là, c'est un petit peu moins prévisible. Ça peut juste être lié à des turbulences dans la masse d'air qui font qu'à un moment, ton parapente se referme sur lui-même et que du coup, ben, tu n'arrives plus à le réouvrir. Et là, tu vas être obligé d'actionner ton parachute de secours, à savoir que ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours en 15 ans de parapente. Ouais, moi, je l'ai fait
une fois.
J'espère pas le faire une deuxième fois.
On est d'accord. Pas aujourd'hui.
Pas maintenant, en tout cas. Tu vois.
S'il vous plaît, pas aujourd'hui, madame. J'arrive sur cette troisième discipline qui, en tout cas, je le ressens, t'attire de plus en plus et que tu as envie de dompter, donc ce qu'on appelle marché-vol. Et donc là, ça va être des énormes distances, donc avec une course notamment qui est très connue, que tu as déjà fait une fois et que tu pourras nous raconter, ce que tu es en train de préparer, puisque tu l'as fait dans un tout petit peu plus d'un mois, et on va essayer de sortir cet épisode juste avant pour que les gens puissent aller la voir aussi. Et donc l'idée là, c'est la Red Bull X-Alpes. Vous partez en Autriche de Kitzbühel. Ouais, Kitzbühel, donc c'est juste à côté. Donc Kitzbühel, c'est la fameuse descente de ski, le super G le plus connu au monde, que d'ailleurs notre ami Antoine Denneria a fait aussi. Et donc là, vous partez pour 1200 km et c'est à vous de gérer comme vous voulez. Donc vous avez une assistance, bien sûr, une voiture qui vous suit. Donc là, le but, c'est le premier qui arrive avec les conditions. Et soit tu marches, soit tu voles, quoi. Grosso modo.
Grosso modo, t'as bien résumé, ouais, c'est ça. Donc c'est sur 12 jours au maximum. On part de Kitzbühel, on vient faire le tour du Mont Blanc. Et ouais. Puis on rentre à Kitzbühel. Donc avec différentes balises où on doit passer. Donc soit c'est un panneau à signer, soit c'est un rayon fictif qu'on doit valider dans nos GPS.
Ouais.
Et donc de plus ou moins 5h du matin à 22h le soir, il faut avancer sur ce parcours via les deux moyens, soit la marche, soit le vol. Donc on est extrêmement dépendant de la météo. Si ça vole, on va essayer de voler au maximum, parce que à savoir qu'un parapente, on peut aller faire des distances jusqu'à 300 km sur un vol. Si ça pleut, on va se retrouver à marcher en fond de vallée. Et des fois, un petit mix entre les deux, où du coup, on va monter au sommet de la montagne, essayer de glider le plus loin possible pour avancer, remonter et puis recommencer.
Ok, ouais, c'est vraiment de l'aventure et ça mixe vraiment entre du trail et du parapente.
C'est ça. Alors trail, on court, mais c'est quand même un petit peu limité parce qu'on a donc notre parapente à porter sur le dos.
Ouais.
Et il va faire entre 6 et 7 kilos. Donc voile, sellette, casque, un tracker, un GPS obligatoire. Ouais, on va être dans ces eaux-là niveau poids.
Ouais, il y a une vraie gestion du poids. On vient d'entendre un petit bruit, je ne sais pas si on l'entendra au micro. Qu'est-ce que c'était exactement?
Alors ça, c'était ma caméra. Mais effectivement, des fois on utilise des instruments, enfin des fois la plupart du temps quand on cherche à faire un petit peu de vol de performance. Donc là tu vois, on est parti des Dents de l'Enfant, du site de Planfay où on a décollé, et on va aller voir le deuxième site de la Forcla, celui peut-être qui est le plus connu. Et donc on va se balader comme ça, et pour utiliser les courants ascendants de façon efficace, on utilise ce qu'on appelle des variomètres qui vont émettre un bip avec notre variation de vitesse verticale, tout simplement, et ça permet de façon sonore de se guider dans le thermique.
Ok. Et là, en dessous de nous, je crois qu'on voit un deltaplane.
Et on voit un delta, ouais. Des fois, souvent, on nous confond. Donc, le delta, c'est vraiment différent. Ça a perdu un petit peu ces derniers temps de nombre de pratiquants, tout simplement, parce que c'est une structure rigide. Et donc, quand tu as un delta, il te faut aussi une voiture avec un tube sur la voiture. Là, ce qui est génial, c'est que tu vois, si on va poser ailleurs que sur notre point de départ,
ça tient dans
on
un sac.
Remet tout dans le sac, on marche un peu et puis on va trouver de quoi faire du stop, ou alors on peut vraiment marcher et rentrer à la voiture. Le delta, c'est un petit peu limité. Par contre, tu as plus de ce qu'on appelle de finesse. Donc, c'est-à-dire que pour une certaine altitude donnée, tu vas pouvoir aller plus loin.
D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que tu vas plus loin? C'est la forme de la voile qui est plus aérodynamique, du coup.
Ouais, c'est ça, principalement.
Plus de
portance. Ouais, okay. C'est la forme de la voile, le fait que ce soit rigide, la position du pilote, tout ça, ça joue beaucoup.
Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de fascinant, en tout cas dans le parapente, c'est que j'ai découvert, enfin en tout cas que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que effectivement c'est hyper impressionnant vu d'en bas. On voit ces immenses ailes, on vous voit effectivement les sellettes, donc c'est l'espèce de nacelle dans laquelle on met les pieds. Alors moi j'ai les pieds dans le vide. D'ailleurs il fait pas chaud.
T'es content que je t'ai dit de prendre un pantalon, non?
Ouais, effectivement. Là je l'aurais pas fait en short. Mais t'as vu, j'ai oublié mes gants, mais je vais tenir. Je vais avoir les mains violettes en arrivant, c'est pas grave. Et en fait c'est quoi? Tout votre matériel tient dans un sac, et que vous pouvez faire des distances absolument incroyables avec tout dans un sac, quoi. C'est vraiment absolument phénoménal.
Ouais, c'est ce qui est chouette, et puis tu peux aussi pratiquer de façon un petit peu plus extrême si t'aimes seulement randonner. C'était vraiment plutôt trailer. D'ailleurs, on a pas mal de trailers qui viennent nous voir pour apprendre le parapente en se disant mais la descente c'est sympa, mais voler c'est quand même mieux. Et du coup, t'arrives vraiment à avoir du matos ultra light. Et quand je dis ultra light, tu vas avoir ta sellette et ta voile pour 1,5 kg au max.
Ouais, donc c'est...
Même
c'est...
ton casque avec, peut-être, t'arrives en... le plus léger parapente, il fait moins d'un kilo.
C'est absolument dingue.
Tu peux rentrer ça dans un sac de trail, monter au sommet de la montagne et redescendre en volant.
Voilà. Bah écoute, je sais que j'ai plein d'amis trailers qui nous écoutent et qu'on embrasse et à qui on espère que ça donnera envie. Est-ce que, si on repart un peu sur le parcours en parapente, c'est quoi un peu les grands jalons que toi t'as passé et par lesquels il faut passer quand on fait de l'apprentissage? Ta première compétition à 18 ans, j'imagine. Est-ce que tu pars très vite en Coupe du Monde? Est-ce que, c'est quoi les grandes étapes, on va dire, d'une athlète parapentiste? Et puis les tiennes aussi.
Il y a peu de données là-dessus, il y a plein de façons de faire différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans les filières de haut niveau, donc pour l'espoir, pour le France, tout va un peu se faciliter pour toi. Mais il y a aussi des pilotes qui se sont mis au parapente, tu vois, un peu plus tard dans leur vie, qui ne sont pas passés par ces filières et puis qui ont réussi à accéder au circuit. Bah, à force d'entraînement, tu vas réussir à voler déjà des voiles de plus en plus performantes, à faire de plus en plus de distance. Puis là, tu vas commencer par ta première compétition régionale pour ensuite aller en nationale. Et après, on va avoir un circuit, ce qu'on appelle de petites compétitions internationales, qui vont te permettre d'engranger des points. Et en ayant un bon classement sur ces compétes-là, tu peux prétendre à rentrer sur le circuit de Coupe du Monde. Et après, chaque Coupe du Monde te donne un classement. Et du coup, sur ce classement, eh ben, tu vas pouvoir te qualifier sur un circuit. Donc le circuit de Coupe du Monde, c'est 5 épreuves à l'année plus une finale. Avant, c'était vraiment un tour complet, sauf qu'on n'est pas dans un sport pro, donc c'est aussi compliqué d'avoir un classement à l'année. Ça veut dire faire les 5 étapes. Et 5 étapes, bah, c'est 5 fois une semaine, donc dans un sport pas professionnel, c'est assez compliqué. Donc là, ils ont fait un format un petit peu différent où les 25 meilleurs de chaque Coupe du Monde se retrouvent qualifiés pour la finale. Et à la finale, c'est une compétition qui dure un petit peu plus longtemps, et là, tous les meilleurs se retrouvent. Donc il y a plusieurs niveaux de compétition, et je dirais que c'est un peu comme dans tous les sports, quoi. Tu commences par les compètes à saucisson dans le jardin, et puis petit à petit, tu vas de plus en plus loin suivant tes résultats.
À quel âge tu as eu ton premier titre ?
Bonne question, c'était en 2014 et je suis né en 92, donc ça fait 22.
Championne de France, j'imagine.
Là, c'était championne du monde et championne de France, je sais plus, ça m'a pas... Je suis pas en vrai marquée par mes titres. Tu vois, les trucs qui m'ont plus marquée en parapente, peut-être, c'est les vols. C'est ouais. Certains vols où j'ai fait une distance ou un posé au sommet du Mont Blanc. On en parlait tout à l'heure, là, en 2012, on a eu, et sur plusieurs années, on a eu les conditions thermiques à un moment, liées en fait à la canicule. Qui fait que les courants ascendants montaient vraiment très haut et on a pu juste poser au sommet du Mont Blanc, quoi. Donc, je me souviens, on a posé, on a repris le courant ascendant et on a fait 5300 mètres. Et là, à 5300 mètres au-dessus du Mont Blanc, tu vois, tu commences à voir l'horizon un peu arrondi. Et ça, pour le coup, c'est des souvenirs de dingue. Je me souviens, ça m'avait explosé un peu les oreilles. À l'atterrissage, tout le monde était là, mais on a fait le Mont Blanc, c'est génial. Et moi, j'étais dans un caisson et j'entendais plus grand-chose. Et ça, tu vois, c'est des souvenirs vraiment dingues par rapport à mes titres où du coup, j'ai été deux fois championne du monde, donc sur le circuit Coupe du Monde. La deuxième fois, je me souviens de certaines manches où j'avais vraiment une espèce de sensation d'extra-lucidité, tu sais, ce qu'on appelle un peu le flow, là.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est des souvenirs particuliers. Mais après, en soi, le titre, c'est un sport anecdotique et pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, on va dire.
Bah, c'est vrai que vous êtes, tu vois, en discutant tout à l'heure avec vous, je comprenais un peu qu'il y avait une part de chance. Alors, j'aime pas dire la chance parce que la chance, ça se provoque et que la chance appartient aux audacieux, enfin, sourit toujours aux audacieux. Mais en tout cas, il y a une grosse part, effectivement, sur la relation au climat, relation aux éléments et qui fait que, enfin, un vol peut être, j'imagine, un vol peut être beaucoup plus savoureux parce que les conditions sont dingues, parce que toi, tu te sens bien, plutôt qu'une compétition où tu gagnes alors que les conditions sont pourries et que le vol vaut pas le coup, quoi.
Ouais, complètement. Et puis des fois, c'est un système de scoring un petit peu compliqué. Alors la chance, pas trop. C'est vrai que tu es dans un milieu hyper instable. Donc ce qui est un peu dur à te dire, c'est que tu vois, là, on arrive, on va monter dans un thermique. Bah, celui qui arrive juste après, il a peut-être plus le thermique, qui au final n'était pas une situation vraiment installée. C'est juste une petite bulle d'air qui est montée. Et puis toi, tu arrives derrière et tu l'as pas. Mais en compétition, donc comme je disais, on est jusqu'à 130 pilotes dans le ciel. Et du coup, il y a énormément de jeux de stratégie. Tout le monde va baliser la masse d'air. Et au final, quand tu gagnes, c'est pas comme quand tu vas faire un long parcours. Tu gagnes par rapport à l'autre. Ouais. Et donc, ton but, ça va être d'avoir énormément de stratégie de placement pour jamais t'exposer et pour toujours être en contrôle de la situation et des autres pilotes qui vont t'aider à baliser la masse d'air. D'accord. C'est un jeu vraiment tactique, différent du vol pur où, tu vois, moi, là, quand je vole en distance, je vais regarder... Je t'ai montré tout à l'heure, regarde un oiseau, on va dessus, ouais. On trouve le courant ascendant. Vraiment, c'est vraiment différent.
Ok. Et du coup, là, tu me parlais de certains vols qui t'ont marqué, de certains spots qui t'ont marqué. Est-ce que tu pourrais commencer par nous en citer un, tu vois, un vol autre que celui, justement, ou nous raconter un petit... Raconte-nous un peu plus en détail celui du Mont-Blanc. Où est-ce que vous partez? T'es avec qui? Pourquoi est-ce que vous faites... Est-ce que c'est un objectif en début de journée que vous faites, ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure?
Complètement sur des vols pour aller poser au Mont-Blanc, c'est-à-dire que c'est des conditions aérologiques vraiment particulières. Et donc on sait qu'on va avoir ce jour-là des plafonds qui montent très haut, on appelle ça le plafond, c'est-à-dire le sommet du thermique. Et donc on a un petit peu des alertes à l'avance pour se dire ce jour-là, il faut aller voler dans le massif pour pouvoir monter. Et donc il y avait déjà eu le cas, je crois, une année auparavant, et puis j'organise l'anniversaire de ma maman, donc c'était compliqué d'être présent, parce qu'il faut aussi le parapente, c'est un petit peu compliqué de gérer ses plannings, il faut être là au bon moment pour saisir du coup les bonnes conditions. Et donc là, effectivement, j'avais pu être présente et on était allé voler. On a décollé du coup en Suisse. Donc ce qui était dur, c'est que c'était vraiment caniculaire. Vous imaginez, il faisait 30-35 degrés. Et du coup, tu t'habilles comme pour aller faire de l'alpi. Donc tu es là au déco à mettre tes chaussettes de ski, à mettre une sous-couche, une doudoune, ta Gore-Tex. Tu sues comme pas permis. Et puis après, tu te retrouves en l'air. Et donc, comme tu vois là, ce que tu ressens, c'est vraiment... de l'air, du vent relatif, lié à notre vitesse de déplacement. Et du coup, déjà, ça va mieux. Et ensuite, le but, c'est vraiment exactement comme on est en train de faire là, de trouver le courant ascendant qui va permettre de te monter au sommet, quoi. Et donc, tu sais que c'est possible ce jour-là. Après, est-ce que ça va faire? Tu sais, la différence entre la théorie et la réalité, on la connaît tous. Et donc là, c'était vraiment chouette de pouvoir le faire. Alors, il faut savoir que là, maintenant, la pause au sommet du Mont Blanc est interdite. Il y a aussi des personnes qui ont posé au sommet sans avoir trop d'équipement et qui n'avaient pas forcément le niveau. Et ça a posé quelques problèmes, notamment aux secouristes pour venir les chercher. Donc c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et toute la partie ouest du Mont Blanc n'est pas autorisée au vol l'été, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de secours en montagne et que du coup le PG tourne avec l'hélicoptère et n'a pas envie de s'embêter avec des parapentistes qui viennent jouer dans le ciel.
Ouais, d'accord. Okay,
mais
ouais.
Donc quand on a fait le sommet, on a posé. Et j'ai très vite redécollé parce que justement, j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation bloquée au sommet. Donc j'ai juste, je crois, posé les pieds, fait la photo. Et puis après, il y avait quand même une petite sensation liée à l'altitude où j'étais pas totalement lucide. Je sais qu'il y avait un parapente qui enroulait. Et donc j'enroule en dessous de lui, je reste dans le thermique. Et puis au bout d'un moment, j'entends la radio. J'étais avec des amis qui me disent, mais on y va du coup? Je me souviens avoir eu un temps de réaction un petit peu lent. On va où? On fait quoi? Et je pense que c'était juste un petit peu les effets de l'altitude, quoi. Un petit manque d'oxygène. Et la longue descente, quoi. La durée du vol pour aller de 5003 jusqu'en bas de la vallée de Chamonix. Mais je sais que ça a été vraiment un long vol. Et je me souviens par contre des douleurs au tympan pendant longtemps.
Ouais. Effectivement, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est impressionnant. Et t'es monté jusqu'à quelle altitude ce jour-là, tu te souviens?
Eh ben, 5003. Ouais, 5300 mètres, pardon, c'était le max, ouais.
Ah ouais, c'est dingue. Et combien de fois tu l'as fait, du coup, le Mont Blanc?
Une fois, j'aurais bien aimé le refaire. Et puis, on essaye à l'automne de... Alors, en étant encadré, ça reste... C'est de l'alpinisme, même si c'est un sommet qu'on a un petit peu démocratisé. Mais du coup, pouvoir le faire et puis décoller du sommet. Ouais. Donc, on monte avec des voiles légères, là, comme j'expliquais tout à l'heure, et on peut décoller du sommet. Alors, la seule, je veux dire, particularité, c'est qu'il faut... une météo sans trop de vent. Plus on monte en altitude, plus on est quand même sensible au vent. Ouais. Et donc, il faut trouver les bonnes conditions météo pour pouvoir le faire.
Wouhou !
Ça va ton estomac, Bart ?
Ouais, ça va très très bien. Là, effectivement, on a pris un peu de vitesse, un peu de hauteur. On est au-dessus de tout le monde. Et là, j'ai essayé de compter tout à l'heure le nombre de voiles, le nombre d'ailes que... dans le ciel, mais on doit être une bonne trentaine, quarantaine là, vu. Ils sont un peu derrière nous. J'ai compté 4 deltaplanes en tout. C'est impressionnant, c'est somptueux. Franchement, faire ça. Écoute, moi je veux bien revenir tous les week-ends, Laurie. Hein, franchement, il faut absolument que je m'y mette, en tout cas. Et là, typiquement, là, tiens, qu'est-ce qu'on a ressenti? Là, on était en pleine accélération et d'un seul coup, hop, ça freine et on remonte. Est-ce que c'est toi qui as fait une manipulation particulière ou est-ce que c'est un courant?
En fait, c'est juste que nous, donc on est en pendulaire sous le parapente. Ouais. Et donc, on va toujours chercher le point d'équilibre. Enfin, c'est naturellement que ça va se faire. Et donc, ce que je vais faire, moi, en termes de pilotage, c'est soit donner de la vitesse à ma voile, donc lever les mains pour qu'elle puisse prendre de la vitesse, soit à l'inverse, la freiner pour pas qu'elle nous dépasse. D'accord. Et ça va aller faire des actions un petit peu asymétriques, parce que des fois, on va soit rentrer tout le parapente dans la bulle d'air, soit qu'un seul côté à droite ou à gauche. Et du coup, c'est vraiment en termes de feeling. C'est pour ça que l'apprentissage, il est un petit peu long en parapente. C'est parce qu'il faut tout doucement s'exposer à des conditions thermiques qui ne sont pas trop turbulentes et pas trop fortes pour apprendre à gérer ces mouvements de tangage, pour ensuite pouvoir aller dans des conditions plus fortes et gérer le pilotage du parapente.
Ok. Ouais, donc il faut vraiment y aller progressivement, quoi. On peut
ouais,
pas...
complètement. Souvent, on entend beaucoup parler de la prise de risque en parapente, je dirais. On voit ça un peu comme un sport extrême.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Moi, je dis toujours que c'est pas un sport extrême, c'est un sport à risque et qu'on peut en maîtriser une grosse partie. La difficulté, c'est qu'il est pas très lisible comme sport et que la masse d'air, c'est très compliqué de l'appréhender, et il faut du temps, il faut beaucoup d'apprentissage, et puis surtout il faut de la patience. Quand tu apprends le parapente, bah tu peux passer une journée où tu avais posé un jour de congé pour venir voler, et en fait les conditions, elles sont juste trop fortes pour toi ou pour ton niveau, pour ton expérience, et ça du coup faut l'accepter. Et parfois on voit pas mal d'accidents de pilotes qui en fait tout simplement ont soit une mauvaise analyse des conditions, soit une mauvaise analyse de leur niveau par rapport aux conditions. Et c'est comme ça que ça devient un petit peu dangereux.
Ouais, bien sûr. Tu t'es déjà fait peur ?
Oui. Alors, plusieurs fois, on va dire. Ça permet juste de remettre les curseurs à la bonne place. Et du coup, de se raisonner sur sa prise de risque, de faire une analyse sur ce qu'était, où était l'erreur, quoi. Mais ma plus grosse frayeur, c'était quand même à la dernière Red Bull Exalp. Du coup, j'ai eu un accident et j'ai dû tirer le secours pour la première fois de ma carrière de parapentiste. Et là, alors faut savoir que forcément, comme on marche et vole et qu'on accumule de la fatigue, des fois on va manquer un petit peu de lucidité dans ses prises de décision et on peut se retrouver exposé à des situations un peu dangereuses. Et surtout, j'ai eu beaucoup de remises en question sur ma pratique, sur pourquoi je volais, ce que j'avais envie de faire et quelle part de risque j'étais capable d'accepter.
Parce que peut-être pour donner un petit peu de précision, du coup, donc cette Red Bull X-Alpe, tu dois la faire en 12 jours, je crois que c'est au 9e ou 10e jour que ça t'arrive ?
Ça m'est arrivé assez tôt, au 4e, et du coup, j'ai volé sous de la pluie, mon parapente était déjà mouillé d'un vol précédent. Il faut savoir qu'un parapente, ça vole pas sous l'eau, ou du moins pas longtemps. On a une petite marge de manœuvre, mais vraiment limitée. Sinon, la plupart du temps, on essaye de voler au sec. Et j'ai volé avec un parapente mouillé, qui en plus avait un petit nœud sur les suspentes à l'arrière, qui fait qu'à un moment il s'est arrêté de voler. Donc j'ai dû déclencher mon parachute de secours, j'ai fini dans les arbres, je me suis rien fait. Par contre, je me suis fait peur. Et puis je me suis questionné sur mon envie de continuer à faire ça, à prendre du risque en tout cas. Parce que c'est aussi sympa d'être dans son canapé, tranquille, et juste de profiter sans se poser des questions. Ou même sur d'autres activités en fait, que j'adore, comme le vélo ou la course, où l'engagement est vraiment différent.
Ouais. C'est quelque chose que tu recherches, cette peur, cette adrénaline, ou au contraire pas trop ? Je te pose la question parce que tu vois, justement, on parlait un peu de speed riding. Et tu vois, et j'ai eu la chance d'interviewer Mathias Giraud qui fait lui du ski base. Tu vois, donc il skie et il se jette en haute falaise, et notamment il a fait le Mont Blanc au début de l'hiver. Et lui, tu vois, il explique dans l'interview qu'il est complètement accro à ça. Et que cette adrénaline, en fait, cette peur de la mort, c'est quelque chose qui est nécessaire pour lui de se rendre vivant. Et j'ai trouvé l'échange est passionnant parce que c'est quelqu'un qui a énormément philosophé et qui s'est posé beaucoup, beaucoup de questions, qui est très intelligent. Et du coup, forcément, vos deux sports vous lient un petit peu par le matériel, même si je pense que c'est des sensations qui sont complètement différentes. Toi, c'est quoi ta philosophie par rapport à la prise de risque et par rapport au danger ? C'est quoi ta relation, surtout, au danger ?
Bonne question, c'est assez complexe, mais du coup, effectivement, je me la suis beaucoup posée avant de me relancer dans l'aventure X-Alpe. Et en fait, j'ai jamais l'impression de vraiment prendre du risque en parapente. Tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as contacté pour le podcast, qu'on a vu comment on pouvait faire, et que d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'aime bien t'emmener, t'expliquer un petit peu mon sport et essayer de le vulgariser, c'est parce que je pense qu'on peut en maîtriser une grosse partie. En fait, J'irai en randonnée ou là en faire ce qu'on fait actuellement en parapente. Pour moi, la prise de risque, elle est plus ou moins similaire parce que je reste dans un domaine que je maîtrise. Et après, la question se pose effectivement quand on va aller faire des courses bah, comme la Red Bull X-Alpes, où là, on sait qu'on va rentrer dans un autre domaine de ces petits paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire voler quand on est en état de fatigue extrême. Parce que la Red Bull X-Alpes, il faut savoir que donc, c'est des longues journées où en termes de marche, on peut aller jusqu'à 5000 mètres de dénivelé par jour et 70 à 80 km. À côté de ça, on cumule du coup les vols où il faut être hyper lucide pour réussir avant d'être performant à voler en sécurité, donc c'est-à-dire bien se placer dans la masse d'air, essayer d'éviter ce qu'on appelle les pièges aérologiques, donc être vraiment tout le temps au vent. Donc, imaginez un petit peu la masse d'air comme une rivière. Et donc l'idée, c'est de pas aller là où se retrouvent les tourbillons, d'être toujours au vent. Et donc effectivement, quand je vais faire ce genre de course, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ma capacité à gérer, à apprendre sur moi en fait. Tout simplement, c'est à maîtriser de plus en plus de paramètres. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une exposition petit à petit, avec une capacité à, même en course, à gérer, à contrôler en fait certains paramètres, à savoir conserver son libre arbitre quoi. En course, si tu veux faire du trail et que tu pars à fond dans la première côte, t'auras juste pas un très bon résultat. Et en soi, c'est pas très grave, tu vas peut-être avoir du mal à t'en remettre et puis tu vas mal vivre la suite de ton trail et peut-être tu le termineras pas. En parapente, c'est un petit peu plus compliqué et du coup, t'es vraiment obligé d'apprendre à gérer tout ça avant de tester quoi. Tu peux pas vraiment innover sous le risque, c'est de te faire vraiment mal. Ouais. Il y a peu de petites blessures. À partir du moment où tu tombes en parapente, si tu peux vraiment te faire mal.
J'imagine. Il y a deux choses dans la prise de risque. Enfin, il y a deux paramètres importants. C'est le pourcentage que le risque arrive, et si le risque arrive, à quel point est la gravité. C'est toujours comme ça qu'il faut le calculer. Donc, par exemple, si tu fais du plongeon à 10 mètres, la probabilité de faire dans l'apprentissage de faire une centaine de plats dans ta carrière, elle est énorme. La probabilité, elle est très forte. En revanche, le risque, tu montes pas tout de suite à 10 mètres. Mais le risque, il est moindre parce que il n'y a pas eu de cas, ou en tout cas très peu de cas où où tu peux en mourir quoi. Tu peux te faire très mal, tu peux te faire une commotion cérébrale, tu peux te péter un poignet, tu peux te péter plein de trucs, mais le risque maximal est pas vital.
Mais en parapente, je dis souvent que tu as en fait une partie maîtrisable et une partie non maîtrisable. Et l'idée, c'est d'être à 100% de cette partie que tu peux maîtriser, vraiment d'aller de limiter du coup ton exposition au maximum, et qu'après, il y a cette part de risque que tu ne maîtrises pas qu'il faut accepter. Mais en fait, ça, tu l'acceptes dans la vie de tous les jours. Il peut t'arriver des choses, et que même si tu as tout verraillé, tout programmé, il peut quand même t'arriver une tuile, quoi. Et ça, faut l'accepter. Faut juste essayer de limiter au maximum.
Ok. Ça m'amène à une question que je voulais te poser, c'est quoi selon toi les qualités nécessaires pour être un bon parapentiste ou une bonne parapentiste? Parce que je pense qu'effectivement l'adaptation et l'agilité sont particulièrement développées quoi.
Ouais, complètement. Je pense qu'il faut aussi une bonne prise de recul sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour justement prendre les bonnes décisions. Souvent en parapente, tu vas avoir tout le temps l'explication de ton accident. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Tu vas parler technique sur ce qui t'est arrivé avec ton parapente. Puis la question, c'était peut-être, est-ce qu'il fallait que tu ailles voler ce jour-là quoi. Donc c'est, je pense, être capable de se dire, allez, aujourd'hui, c'est pas pour moi, j'y vais pas. D'être calme, tout simplement. De pas en vouloir trop. De pas être pressé. Parce que c'est un sport avec un apprentissage un petit peu long. Et on est tous comme ça dans la progression, hein. C'est-à-dire que je pourrais comparer ça à l'escalade, mais à un moment, tu as besoin de chuter, en fait. Tu as besoin de te dire, j'y vais trop, ça passe plus, quoi. Ou tu vas te faire peur. Et c'est nécessaire, en fait, de te faire peur pour te recaler, pour te dire, peut-être que les conditions dans lesquelles je volais, elles étaient trop fortes pour moi, j'ai trop cumulé ces derniers temps, ou pour tout simplement te replacer les curseurs et te poser les bonnes questions. Et donc c'est nécessaire, mais alors souvent ce qui est difficile, c'est que t'es en confiance, tu progresses en parapente, et là tu te fais peur, Et du coup, tu te fais peur, et bah forcément, tu fais une grosse marche arrière. Ouais. Alors, l'idée, c'est de faire les marches arrière les plus petites possibles pour juste avoir ce petit recul, cette petite remise en question, et puis repartir de l'avant. Mais si t'en as pas, il y a forcément un moment où tu vas avoir un coup de... Je connais aucune progression linéaire où t'as tout appris, tout s'est bien passé. Et je pense que c'est valable, c'est transversal un peu à tous les sports à risque.
Bien sûr, ouais. Non, et puis même dans l'apprentissage en général, l'excès de confiance fait partie de l'apprentissage. Et en fait, cette chute-là est complètement normale, en fait, et même sain. Tu as dit que tu t'étais fait peur et que, effectivement, t'es passé pas loin d'un gros accident. Tout à l'heure, on marchait tous les deux, on montait, et on a parlé du pourquoi. Pourquoi tu fais les choses, pourquoi... Quand t'es athlète, un peu de cette phase justement où tu te remets en question et tu te poses les bonnes questions. Et tu m'as dit que tu t'étais posé la question du pourquoi est-ce que je fais tout ça. Tu l'as évoqué là à l'instant, mais tu n'as pas dit la réponse.
Alors le vol, c'est vraiment juste pour les sensations. Et puis c'est, je trouve génial la capacité à pouvoir te déplacer. En fait, tu dis je sors mon parapente, je mets mon parapente sur mon dos, je vais sur un déco et ce soir je suis à Chamonix, tu vois, alors qu'on est à Annecy. Et juste ça, faire des petits vols comme ça, c'est ce qui me fait rêver et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Et pour pouvoir faire des vols comme ça, eh ben, il faut un certain niveau de pratique. On n'a rien sans rien, un certain niveau d'entraînement. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de continuer à voler. Mais c'est aussi pour pouvoir t'emmener sereinement, faire un podcast en l'air et puis partager. Moi, ce que je trouve génial, c'est que les sensations de mon premier vol, je ne les aurai plus jamais. Parce que après, je sais pas combien d'heures de vol, je les ai pas comptées d'ailleurs. Pour moi, c'est une espèce de continuité, les pieds au sol ou les pieds en l'air. Ouais. Il y a juste un petit peu au printemps, après l'hiver, après une longue période sans vol, où là, je vais retrouver des sensations à me dire waouh, t'es en l'air, à regarder un petit peu les suspentes de mon parapente, à me dire. Mais voilà pourquoi je vole principalement et pourquoi aujourd'hui je retourne à la Red Bull X-Alpes, c'est principalement pour des objectifs de manière. Mon incident, c'est une chose, mais c'est surtout que j'ai pas réussi à être lucide et puis à bien gérer ce moment-là de course, en fait. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire que j'ai réussi à tout mettre en place pour aller faire ma course en sécurité. Et le but, c'est pas forcément... J'aimerais bien aller à l'arrivée. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui vont à l'arrivée. Hein, sur 35 l'an dernier, il n'y en avait que 5. Et c'est vraiment des cadors et j'estime pas être à leur niveau. Mais pour autant, moi, ce que je veux, c'est déjà être sur la ligne de départ et m'être dit... Mais, j'ai tout mis en place et tout est au vert aujourd'hui pour que je prenne le départ de cette course sereinement. Et ensuite, que durant la course, j'arrive à valider tous les petits objectifs de manière que je me suis fixé. En fait, juste, il y a des gens qui font pas de sport et qui ont tout simplement comme objectif d'être meilleur dans la vie de tous les jours. Et bah là, c'est pareil, c'est juste être meilleur sur plein de petits points, savoir que je peux le faire parce que j'ai décidé de le faire. Ça, c'est juste ça, mon objectif.
Ok. Eh ben écoute, merci pour ce partage. Pour rebondir sur le premier point du premier vol, je sais pas comment les autres vols pourront être mieux que celui-là. Pour moi, à moins que je progresse beaucoup, mais tu auras placé la barre très très haut, sans mauvais jeu de mots, parce que là c'est absolument incroyable. On a une vue, on est vraiment passé au-dessus des crêtes justement qui sont vraiment au bord du lac. Et là, on a vraiment la vue sur tout le massif des Aravis. Il y a quoi d'autre? Il y a les écrins.
Ouais, d'ici on ne les voit pas. Donc, au loin là-bas, déjà, ce que tu vois, c'est sur la plaine, tu as le Jura et du coup, tu as Genève. Ouais. Et après, si là-bas, effectivement, tu peux voir Beldon, la Vanoise. Et puis, le Beaufortin, il est un petit peu caché derrière la Tournette. Ouais. Et après, sinon, tu as le Mont Blanc là-bas derrière avec le col des Aravis.
Et c'est somptueux. Et de l'autre côté, effectivement, le lac. Et on voit d'ici, effectivement, le vent souffle, en tout cas à terre. Puisque le lac est en train de briller de mille petits scintillements.
Ouais, bah là, tu vois, du coup, on va quitter le relief et puis on va tout doucement descendre. Donc là, en altitude, on doit être à plus ou moins 1009. Et puis on va se laisser glisser tranquillement jusqu'au-dessus du lac. Je te ferai piloter comme ça le parapente quand tu auras lâché tes micros. Tu verras comment ça marche.
Mais écoute, c'est une vraie prouesse avec le vent, orienter le micro pour toi, c'est vraiment génial. C'est absolument fantastique. Donc ouais, c'est revenir sur cette course. Aujourd'hui, tu considères que c'est la course la plus mythique en parapente, marche et vol au monde?
Ouais, alors historiquement, c'est parce qu'en fait, la course, elle faisait vraiment une transalpe. Donc c'était Salzbourg to Monaco. Ouais. Donc tu passais par le Mont Blanc et je trouvais vraiment que tu avais un sens à faire une traversée et à finir à la mer. Après, pour des raisons économiques, je pense principalement, Red Bull a des stations partenaires un peu partout dans les Alpes et un petit peu moins en France. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus connus en Red Bull, c'est autrichien, hein, donc en Autriche principalement. Et donc depuis la dernière édition, ils ont choisi de faire un aller-retour dans les Alpes, ce qui est un petit peu moins symbolique. Mais après, sinon, ça reste quand même la plus grosse course de marché vol au monde. Et puis surtout, du coup, il y a quand même pas mal d'argent mis sur cette course pour la communication. Et ça permet aux gens vraiment de la suivre. Et c'est vrai qu'on est dans un petit milieu peu médiatisé. Et donc, ce genre d'événement, ça fait toujours du bien à la discipline en soi.
Ouais. Bah, je voulais te poser la question. C'est, j'ai l'impression quand même qu'il y a un excellent niveau de parapente en France, d'excellents parapentistes. Qu'est-ce qui fait, tu vois, là, quand on arrive sur des spots comme Annecy, où il y a peut-être, tu me disais qu'il y avait 150 vols biplace x 10, enfin 150 professionnels par jour l'été qui font faire du parapente à plein de gens. Donc, il y a énormément de gens qui essayent. Qu'est-ce qui fait que ça soit si peu, selon toi, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça soit si peu, peut-être pratiqué, pas assez de compétition, pas assez de médiatisation?
Ouais, je pense que c'est vraiment un manque. Il y a beaucoup de pratiquants, de plus en plus, je pense, et notamment avec le sport montagne là, qui se développe de plus en plus, où ça attire aussi des montagneurs qui veulent juste descendre de la montagne en volant. Mais c'est déjà dur de le médiatiser. Tu vois, là, on est avec nos micros, ensuite, on va sortir la caméra. Tu peux pas non plus passer ça à la télé de façon facile. Et puis ensuite, c'est pas simple à comprendre. Tu vois, là, on a mis tout un épisode pour que je t'explique aussi un petit peu comment fonctionne la masse d'air. Pour la personne lambda, c'est pas non plus hyper évident de comprendre ce sport. Donc, faudrait effectivement un petit peu de budget pour avoir un peu plus de médiatisation et de vulgarisation de la discipline. Mais aujourd'hui, tu vois, les courses de distance qui ressemblent vraiment à des régates de bateau, elles sont plus compliquées à comprendre que des régates de bateau, tout simplement parce que il y a d'autres paramètres dans le scoring, avec notamment ce qu'on appelle des points bonus si tu lead un petit peu sur la partie de course, et qui font que même nous, tu vois, en tant que sportifs de haut niveau, on est toujours surpris un peu par le scoring des compétitions qu'on va faire.
Ok. Tu saurais expliquer pourquoi la France est un pays de parapente ?
Parce que du coup, alors même si c'est pas un sport olympique, c'est quand même un sport où on a des statuts de sportifs de haut niveau. On est listé ministériel avec un championnat du monde et avec cette espèce de pyramide hein, de haut niveau en France. On a une organisation Pôle Espoir, Pôle France, qui font que ça a permis à plein de pilotes de rentrer dans ces structures et d'accéder au haut niveau. Alors que dans certaines nations, il n'y a pas toute cette organisation. Du coup, les pilotes se retrouvent en club. Sur les clubs, c'est pas vraiment actif en France, du moins, et dans d'autres pays également. En Suisse, on a des très bons athlètes. Mais c'est vraiment l'organisation fédérale et du haut niveau en France qui fait que ça a attiré de plus en plus de Français. Le Pôle Espoir, là, dont je parlais à Font-Romeu, c'est le seul au monde. Il n'y a pas ailleurs dans le monde une école où tu vas te retrouver avec à pouvoir aller au lycée et à côté voler, quoi.
Ok. Et tu sais pourquoi ? Est-ce qu'on a un ministre qui était fan de parapente ? Est-ce que...
Je ne connais pas comment le parapente s'est structuré au début, vraiment. Je ne pourrais pas te raconter ça. Au début, c'était quand même moitié delta, moitié parapente. Et je crois même que c'était delta qui avait le plus la cote, on va dire, en compétition par rapport au parapente. Okay. Et puis après, lié à la légèreté et à la facilité de déplacement du parapente, ça a un petit peu inversé la tendance.
Ok. On a évoqué que tu avais fait des Coupes du Monde. Tout à l'heure, tu me disais que tu en avais fait au Colombie. Et je voulais te demander... quels étaient, on va dire, le top 3 des spots qui t'ont marqué, peut-être à l'étranger, parce qu'effectivement, on s'imagine que dans les Alpes, entre le Mont Blanc, Annecy, il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as demandé quels étaient les spots les plus jolis, et je crois que je t'ai pas répondu. Alors, pour être un peu chauvine, c'est quand même pas mal ici, là. Tu vois, on a le lac sous nous, le Mont Blanc derrière. Mais après, j'ai beaucoup aimé effectivement la Colombie, j'y suis allée plusieurs fois. En fait, en France, c'est compliqué. En France et en Europe, c'est compliqué de voler l'hiver, lié en fait à l'ensoleillement qui est trop faible et donc qui ne permet pas de générer des courants ascendants. Donc parfois, on a quelques petites conditions, mais c'est assez anecdotique. Et puis sinon, on va se retrouver à ne pas avoir de thermique. Donc les vols, ils ne vont pas durer longtemps, à ne pas pouvoir s'entraîner. Donc la plupart du temps, l'hiver, on part en Amérique du Sud pour voler. Donc en Amérique du Sud, Brésil, Colombie, pas mal, ça vole bien. Et donc j'ai beaucoup aimé la Colombie aussi parce que je pense que le pays a beaucoup souffert du tourisme et était quand même mal vu par les Français suite à l'histoire Bettencourt et au FARC. Et c'était vraiment chouette parce que du coup les Colombiens étaient ravis de pouvoir accueillir une compétition de parapente et puis de faire découvrir leur culture. et à voler, c'était sympa. C'est un petit peu différent d'ici, c'est-à-dire que tu vas voler ce qu'on appelle en plaine. Donc c'est pas forcément un relief qui va générer un courant thermique. C'est vraiment un différentiel au sol. Et donc tu vas décoller au début d'une montagne, forcément. Quoique ça peut aussi se faire avec ce qu'on appelle un système de treuillage, mais en compétition c'est compliqué. Donc tu décolles de la montagne et ensuite on peut, en fait, comme si on avait une grande plaine, une autre montagne en face, et on traverse. Okay. Et entre, c'était les champs de canne à sucre qui déclenchent les thermiques.
D'accord. Et là tu viens de lâcher les mains normalement.
J'ai lâché les mains normalement. Donc en fait tu vois, on a quitté le relief là, on est au-dessus de Menton-Saint-Bernard et on va aller au-dessus du lac. Et donc à partir du moment où je suis plus près du relief, bah du coup t'as vu, j'ai beaucoup moins de turbulence. On vole un peu plus en ligne droite.
On est face au vent là ?
Là on n'est pas, alors en bas il doit avoir de la brise. Donc la brise elle vient d'Annecy, elle va au bout du lac. Mais par contre là vraiment le vent que tu sens, c'est juste notre vitesse d'avancement, ouais, dans le ciel.
Ok. D'ailleurs, je voulais te demander, ouais, sur le matériel à bord, sur une course comme la X-Alpe, quel matériel tu as avec toi sur la partie un peu technologique ? Il me semble que tu as une montre cardio pour justement suivre un peu ton cœur, tes distances, et ce que tu fais un peu à ce niveau-là. Mais je sais que tu as aussi un petit cadran sur lequel tu as ton altitude, le vent, la pression. Il y a quoi dessus ?
Principalement, alors effectivement, l'altitude, le vent, la pression et puis la qualité des thermiques. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ensuite, j'ai besoin de connaître les espaces aériens. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que par exemple, on voit là-bas Annecy au loin. Ouais. Bah, au-dessus, tu ne peux pas y voler. Parce okay. qu'en fait, du coup, là-bas, tu as l'aéroport,
ouais.
l'aérodrome même. Et du coup, tu as toute une zone aérienne sur laquelle tu ne peux pas rentrer. Parce que nous, on est sur des règles de vol à vue. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir et être vu, mais on n'a pas l'instrument pour se signaler aux autres aéronefs, aux autres avions. Donc il y a ça qui est compliqué aussi durant ces courses où on va traverser beaucoup de terrain, c'est qu'on va se retrouver avec des zones, soit des aérodromes, soit des réserves naturelles, soit des zones de protection d'oiseaux.
Et tu dois connaître les règles pour les éviter, quoi.
Voilà, c'est ça, il faut savoir où elles sont, et puis il faut anticiper, parce que des fois tu vas choisir une vallée dans ton choix de routage, et puis bah, si au fond de cette vallée tu te retrouves coincé par un espace aérien, c'est compliqué. Donc là tu vois, par exemple, en ce moment je passe du temps sur l'ordinateur à regarder tous les espaces aériens pour avoir tout simplement une idée de là où il faut pas aller et puis là où il faudra être vigilant au moment de la course, quoi.
Ok, donc ouais, avant tes courses tu prépares énormément le terrain et tu prépares énormément la cartographie du sol mais aussi la cartographie des airs pour savoir ce qui s'y passe. Parce que tu m'as appris quelque chose aussi tout à l'heure, c'est qu'il existe un code de vol en parapente.
Ouais, complètement. Alors comme tu as vu tout à l'heure, c'était vraiment compliqué. Là, il y a du monde qui volait. Et autant quand on est en compétition, bah, on est entre athlètes de haut niveau et on arrive à jauger, à savoir, à bien gérer nos distances. Et puis à se faire confiance aussi. Hein. C'est comme je disais dans le peloton, hein, tu sais que la personne, elle ne va pas faire n'importe quoi. Là, on est sur des pilotes un petit peu débutants. Et donc, ils essayaient au mieux d'enrouler le thermique, mais en changeant de sens assez rapidement, une fois à droite, une fois à gauche. Donc, il y a des règles, effectivement, par rapport au relief et par rapport aux autres, pour faire en sorte qu'on ne se rende pas dedans. C'est un risque, la collision en parapente, surtout quand il y a du monde. Donc, voilà, faut être très vigilant, faut regarder de partout, en haut, en bas, sur les côtés. Mais là, tu as un peu eu le mauvais exemple. Je crois que des vols comme ça, j'en ai pas beaucoup. La plupart du temps, ça se passe bien,
ouais. Bon ouais, écoute, comme quoi c'était un vol un peu exceptionnel. Je ne t'en veux pas, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Et là, on est vraiment littéralement au-dessus du lac, donc tout se passe bien. Au moins, si quelque chose là, ça sera le grand plongeon. Voilà, ça sera joli.
Là, vraiment le grand plongeon, il vaut peut-être mieux pas y aller.
Ouais, parce que là, on doit être, 400 mètres, 500 mètres
ouais,
au-dessus du lac.
Ouais, je pense bien 500 mètres au-dessus du lac. Donc tu vois, il y a des parapentes en face qui sont partis en creuse, donc ils étaient exactement au même endroit que nous, au-dessus des Dents de l'Enfant, là. Et puis ils ont transité au-dessus du lac, et ils retrouvent du coup un courant ascendant sur la crête, là-bas, tu les vois chercher, faire leurs allers-tours à droite à gauche. Et après ils repartent, ils peuvent aller sur la montagne plus loin, jusqu'au bout des Bauges. Donc après t'as Chambéry, puis après t'as la Chartreuse, t'as Grenoble. Et en fait c'est comme ça que tu te balades en parapente.
Mais c'est assez exceptionnel, ouais. Et c'est quoi ton record que t'as passé en l'air, pour avoir une petite ordi ?
Mon plus long vol, il fait 300 km. C'était un triangle, donc on est parti des facettes de la Chartreuse un petit peu avant Grenoble.
J'imagine que tu fais pas une ligne droite à ce moment-là, du
non,
coup.
Non, ouais, alors il y a différents types de vols. Là, c'était un record qui n'a pas été homologué, parce qu'il faut des conditions particulières, il faut l'annoncer avant. Et donc, tu vas pouvoir soit faire un aller-retour, soit une distance libre. Donc souvent, ça se fait plutôt dans les territoires en plaine, où tu vas te permettre d'avoir du vent, Du coup, le vent va augmenter ta vitesse de vol. Et comme tu n'as pas de montagne, du coup, tu vas avoir turbulence derrière. Par contre, nous, dès qu'on vole en montagne, on n'accepte pas trop de vitesse de vent élevée. Donc, on va pouvoir faire soit des allers-retours, soit des triangles. Et tu as une catégorie de triangle, soit ton triangle, ils ont des côtés un petit peu inégaux, soit tu cherches à faire un triangle, on appelle ça FAI, un triangle équilatéral. Et là, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on était parti du côté de la Chartreuse. On est allé jusqu'à un peu avant le Ventoux, au sud de la Drôme. Et puis ensuite, en dessous du lac de Serpenson. Et on était rentré. Et ça faisait un beau vol, ouais, ouais. Et donc là, 300 km, c'est quasi 11 heures en vol, je crois.
11 heures en vol. Donc là, ouais, il faut que tu manges, il faut que
ouais,
tu
la fameuse t'alimentes. donc en l'air, tu peux manger. Bah, comme là, je suis en train de... J'avais pas les mains sur les commandes. Et donc dès que tu es en transition et que la masse d'air est calme, tu peux du coup utiliser tes mains pour manger. Donc on a des trucs qui se mangent assez rapidement hein, quand même. Et après, le plus compliqué, c'est de faire pipi. et pour les garçons, tu as un système dans ce qu'on appelle de pénilex. Hein, c'est une espèce de préservatif avec un tuyau au bout. Pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Tu as un système un petit peu pareil qui se colle, qui n'est pas évident. Et sinon, après, c'est couche, quoi. Mais je t'avoue que c'est pas la partie agréable et c'est compliqué. Là, cet hiver, je me suis posé quelques questions sur mes vols, notamment avec le froid. Où du coup, tu gères un petit peu moins ça. Et non, c'est pas simple pour les longs vols.
Ouais, d'accord. Bah, j'imagine. Mais tu vois, ça fait partie de ce genre de petits détails. Bah, quand on connaît pas un sport, on s'en doute pas au premier abord. Et puis, moi, je t'avoue que je m'étais noté la question parce que j'avais vu qu'effectivement, t'étais resté très très longtemps en vol.
Tu vois, donc là, on descend tout doucement. Et on a encore, une toute petite dizaine de minutes de vol, même pas 5 à 10 minutes.
Ça marche. Tiens, allez, je vais faire un petit peu les questions de la fin, histoire de dire qu'on aura fait un épisode complet en parapente. Une question que j'aime bien poser à présent, c'est... attention, elle est pas facile, t'as le droit de réfléchir un petit peu. C'est, imagine que demain soir, tu peux inviter n'importe qui à dîner et passer 2 heures avec cette personne pour t'inspirer au maximum ou pour avoir peut-être des réponses à des questions que tu te poses. Qui est-ce que tu choisirais d'inviter à dîner?
Alors là, c'est... je m'y attendais pas, j'ai pas de... Je sais pas, il y a tellement de sportifs inspirants où tu vois, d'ailleurs en écoutant tes podcasts, je me dis, ouais, d'aller prendre un café avec cette personne. C'est un peu ce qu'on fait en fait en écoutant le podcast hein, d'ailleurs. Non, il y a énormément de...
Bah, en tout cas, si t'écoutes des extraterriens et que t'as envie de prendre un café avec eux, tu me dis, je te mets en relation.
Un café en l'air, j'emmène. je peux emmener sans problème à celui qui veut voler. Non, j'étais assez fan de quand même, comme tout trailer peut-être de Kylian Jornet. Alors pas tant pour ses perfs extraterriennes, mais pour tout ce qu'il fait et la façon dont il le fait. J'ai beaucoup lu ses bouquins et un de mes bouquins préférés vraiment c'est un des siens, La frontière invisible. Et du coup, je trouve vraiment que c'est un sportif. J'ai pas tant de modèles dans le sport en général ou de personnes parce que je trouve qu'on est tous on fait des choses et il y a des actions qui sont bien et je trouve que c'est difficile de tout bien faire et de
tout quantifier aussi. Il n'y a pas forcément un classement.
Donc, du coup, c'est souvent des actions qui vont plaire chez certaines personnes plutôt qu'une personne en soi. Et juste Kylian, j'ai trouvé que une personne très inspirante. Donc si un jour.
Qu'est-ce qui t'a plu chez lui par exemple?
Beaucoup de choses, mais sa façon de pratiquer la montagne et puis d'être quand même le meilleur au monde dans sa discipline. Et d'avoir toujours gardé cette relation à son sport et à la montagne.
Ouais, ouais, il a gardé cet enfant intérieur, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, de toujours s'émerveiller, de toujours respecter, de toujours être aligné
ouais,
avec...
Ouais, d'évoluer avec son temps, de se poser les bonnes questions. Puis là, bah, tu vois, il a créé une famille, il vit des choses différemment. Et puis, mine de rien, de toujours être là, quoi, qui est aussi...
Ouais, la longévité de l'athlète. Alors, je vois qu'on...
On n'est plus trop loin, je vais devoir ranger ma caméra.
Ouais, après on fera une deuxième partie d'épisode que je publierai juste à côté pour te poser... Parce que j'ai pas du tout mes notes, hein. Là c'est un peu freestyle.
Je sais même pas ce que j'ai répondu à tes questions, Bart. Si tu me demandes là, de quoi on a parlé pendant l'épisode, je sais plus. Un peu de parapente, un peu de prise de risque, mais je t'avoue que...
Moi je suis raide, je vais avoir des courbatures au dos, tu vas voir...
Ouais, alors là, tu vois, donc l'atterrissage, ça va se passer... Tu connais la prise de terrain, mais tu peux bouger un peu tes chevilles avant. Tu vois, moi j'avais mes chevilles pour éviter de
les engourdir et tout.
Du coup, à la dernière minute, tu pourras te tenir ici, il faudra te mettre debout dès que je te le dirai. Et là, on se prépare à courir. Savoir si je te dis pas de te mettre debout, à l'inverse du vol light, là on a un airbag sous les fesses qui amortit notre chute sans aucun problème.
Ça marche. Bon, je te pose la dernière question. Quelle est la prochaine extraterrienne ou le prochain extraterrien que je dois aller interviewer?
J'ai cru que tu devais avoir Martin Fourcade. J'aurais bien aimé l'écouter, parce que lui aussi, j'aime ses, la façon dont il a su rebondir et gérer sa carrière. J'admire énormément. Lui, mais bon, c'est quand même. En plus, il est pas trop loin, je crois, donc peut-être que ça le motivera pour un prochain. Et sinon, non, j'ai pas d'idée comme ça, mais je suis sûre que t'as plein de gens hyper intéressants à interviewer et des fois des gens qu'on connaît pas, qui payent bonne mine et qui ont juste des trucs de dingue à raconter.
Ouais, ça marche. Bon, je range les micros parce que je vois qu'on est à 50 mètres du sol. À ciao les extraterriens, ce fut un épisode très aérien. Ciao, bon dimanche.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.